Hello, it's been a while, guys. Ça fait un petit moment. Je suis très 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 content de revenir vers vous et de sortir cet épisode. Aujourd'hui, je vous propose de, après quand même quelques semaines, hein, d'échanger avec une personne que j'ai rencontrée totalement au hasard à ITC, comme souvent d'ailleurs, donc ITC, Ivory Trade Center à Abidjan. Et qui aujourd'hui, que je considère vraiment comme une amie, parce qu'on s'échange des sujets, on se partage des tips, et qui est une super entrepreneur, qui a lancé une boîte qui s'appelle AfriSand. Pour ceux qui connaissent, ils vont, vous allez commencer un peu à la reconnaître. Donc je parle bien de Zeynep Sidi Bekone. L'épisode est drôle, c'est au moment où on se rencontrait, donc on découvrait un certain nombre de choses. J'ai totalement découvert un peu son parcours pendant l'épisode, qu'est-ce que Zeynep a fait. Donc Zeynep, elle a étudié, elle a grandi au Mali avec sa famille donc malienne. Elle vous évoque, hein, vous disait qu'elle a sept pères, mais je vous laisserai comprendre ce qu'elle voulait dire dans l'épisode. Mais une famille d'entrepreneurs, et elle part ensuite en Tunisie pour étudier, elle finit en France. Elle étudie, je crois, la finance comptabilité, et après, elle commence une carrière d'auditrice chez Deloitte, donc bébé cabinet, et ensuite, elle rejoint PPG, une entreprise qui fait du matériel de peinture domestique et industriel, je crois, de mémoire. Et bon, bah, au bout de de toutes ces années-là, avec des événements de vie, des mariages, des enfants, enfin, tout ce que vous imaginez, Zeynep finit par se lancer dans l'entrepreneuriat de manière progressive pour résoudre un problème que sa mère avait rencontré. Donc, le fait d'envoyer des marchandises de la France ou de l'Europe vers le Mali, qui se faisait pendant longtemps de manière un peu artisanale, de manière on passe à quelqu'un pour envoyer. Et ben en fait finalement, sa mère a eu des problèmes avec un de ses colis, et Zeynep s'est dit bon, ben, en fait ce problème il peut être réglé, quoi. Donc elle a monté toute une infrastructure pour permettre de régler ce problème-là. Et elle nous explique encore plus en détail dans l'épisode c'est quoi son positionnement, son produit, qu'est-ce qu'elle fait. Et donc avec Zeynep, vous pouvez littéralement faire vos courses sur Amazon, faire livrer à son adresse. Elle peut même payer pour vous, et vous parce que si vous n'avez pas de devise et pas de possibilité de payer en Europe, et elle est, et, enfin, du coup, elle facture tous ces services-là que vous pouvez plus payer en France et à Abidjan ou ailleurs d'ailleurs, pas forcément en Côte d'Ivoire. Je vous laisse découvrir Zeynep, je vous laisse découvrir son parcours, sa belle histoire, sa super entreprise, ses super projets. Et moi je vous dis à très vite, hâte de vous retrouver. On va certainement caler un épisode en public, j'espère au mois d'avril. Et là je suis en train de chercher des partenaires pour monter une masterclass sur comment monter son propre podcast pour vous accompagner. J'ai beaucoup de demandes, le podcast commence à bien prendre. En Côte d'Ivoire, bon, beaucoup les podcasts vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas envie forcément de monter tout un setup vidéo, on va monter cette masterclass-là pour les podcasts audio, permettre à tout le monde de faire entendre sa voix. Bonne écoute, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Salut.
L'enregistrement est lancé. Salut, Nab.
Hello Mali, comment tu vas?
Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Merci beaucoup pour ta disponibilité. On est dans les magnifiques bureaux du M Studio.
Ouais.
Merci Leslie et Aude et Cédric aussi pour votre disponibilité, de t'avoir permis de faire l'interview ici. Cette interview, elle est le fruit d'une spontanéité.
En effet.
On s'est croisés la semaine dernière après avoir pris. Enfin, moi, j'étais chez Après Café, et pas loin. Donc, c'est le Geneva. Et on s'est croisés du coup grâce à Geneva parce que tu as écouté Choose Your Mentor, le premier épisode avec Geneva.
C'est vrai. Ouais, effectivement. Et j'avais retenu ton visage en fait sur le podcast.
Okay. Et donc, on a parlé là, on a échangé plein de sujets. Et puis, bah, je t'ai proposé de venir sur le podcast. Je vais te laisser te présenter, nous dire comment tu veux qu'on te connaisse, qu'on retienne de toi, ce que tu veux qu'on retienne de toi. Et puis après, on va dérouler le cours de l'interview. J'ai plein de questions, j'ai fait mes homework.
Bah, écoute, moi, je suis donc Zeynabou Sidibé Koné, parce que je suis mariée, donc maman de deux petites filles, et puis entrepreneur entrepreneur et fille de plein d'entrepreneurs.
Ok.
Donc.
Tes deux parents sont entrepreneurs ?
Non, mais j'ai 7 papas, ils sont tous entrepreneurs.
Ok.
Donc voilà.
Bon, faut bien peut-être expliquer que les gens
comprennent. Oui, alors moi j'ai 7 papas, effectivement, en effet. J'ai mon papa et tous ses frères. En fait, toute la fratrie du côté des CDB sont entrepreneurs.
Ok.
Pour faire plus simple.
D'accord, ça marche.
Donc, alors, moi je suis financière de base. Okay. Donc, j'ai fait mes classes chez Deloitte. En tant qu'auditrice, auditeur, même on dit, pendant 3 ans. Mmh. Et à la suite de ça, j'ai fait du contrôle de gestion dans une boîte américaine qui fait de la peinture, qui est pas mal connue en Afrique aussi, la Seigneurie.
Ok. La Seigneurie, ça appartient à PPG.
Exact. Ok. Donc, bah, plus maintenant, parce que bah, ça a été vendu.
D'accord.
Mais ouais, c'était, à l'époque, c'était ça. Donc, à la suite, moi, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui me tenait à cœur depuis tout le temps. C'est juste que je n'avais pas trouvé ma voie jusqu'à ce moment-là. Donc, j'ai eu un problème. Ma maman, toute ma famille d'ailleurs, qui vivait en Afrique et moi en France, me demandait tout le temps de leur envoyer des choses. Donc, il fallait bah, déjà faire les courses, ça c'est un, et deux, grouiller pour trouver un moyen pour leur envoyer. Donc il fallait monter à l'aéroport à des heures pas possibles parce que les vols Air France c'était souvent le matin, 6h30 ou voilà, on pouvait être à l'aéroport hyper tôt, trouver quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui veut bien prendre les affaires. Entre temps t'as un coxeur qui se balade dans l'aéroport, qui prend tes affaires, qui les donne à je ne sais qui. On a perdu pas mal de colis comme ça dans ce process là, des colis qui sont arrivés complètement concassés. Des fois, on prenait des valises pleines, bah, 23 kilos qu'on payait, ou le coxeur rajoutait des colis d'autres personnes. Comme je t'expliquais la dernière fois, ma maman a perdu pas mal de colis. Elle a d'ailleurs bloqué les colis d'une autre personne quand elle avait rajouté sur ses colis. Mais voilà. Et donc, moi, je me suis dit bah, qu'il fallait solutionner ça simplement parce que j'en avais marre. Je me suis dit que j'allais trouver une solution un peu plus fiable et plus, comment dire, simple. D'envoyer les affaires à ma famille, quoi. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée d'AfriSend. Qui, à aujourd'hui, est une boîte de sourcing logistique et d'achat. Donc, plutôt dans le sens sourcing, achat, logistique.
D'accord.
Mais à ses débuts, on était plutôt simplement dans l'achat et l'expédition d'articles pour les particuliers. Donc, pour faire simple, on permet aux gens qui vivent en Afrique d'acheter tout ce qu'ils veulent en Occident, et de se faire envoyer en Afrique.
Donc pas en Chine,
si,
pour
en
le moment.
Chine. Oui,
t'as dit Occident. D'accord.
Occident et en Chine all aussi,
over the world,
all over
from, from all over the world to Africa. Okay.
C'est ça. Donc essentiellement, pour les particuliers, essentiellement la France, l'Europe en règle générale, parce que le point de départ est à partir de la France, mais tu peux acheter en Allemagne, on a des clients d'ailleurs en Allemagne, en Espagne, tout ce que tu veux. On a la Chine, effectivement. On a la Turquie. Et mainly les États-Unis aussi.
Ok, pour les particuliers ça.
Pour les particuliers, exactement.
Et en B2B ?
En B2B, tout le monde, enfin tout, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de restriction.
Exact, parce que tu as beaucoup plus de volume, tu n'as pas de contrainte de, tu vois, le minimum d'expédition, ça n'existe pas.
Ok.
Donc de ce... Bah, nous on a commencé de la France vers le Mali.
D'accord.
Pour un début, parce que moi je suis malienne de base, et donc voilà, ma famille habite là-bas, donc le problème que je voulais solutionner c'était France-Mali au début. Okay. Mais après, avec le temps, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins et que bah, tout le monde demandait ce service-là en fait. Qu'il y avait pas mal de gens qui le faisaient de manière informelle, exacte, sans sécurité, sans bah, rien en fait. Et donc voilà. Et comme je t'ai dit, la première fois, quand on a le premier mois où j'ai lancé ce truc-là, alors je vais faire un rewind déjà avant d'en arriver là. Je te réexplique l'histoire. Je pense que je me suis perdue, non, à un moment. Tu m'avais demandé de me présenter, en fait, là je suis en train de faire ma
genèse. Oui,
non,
mais c'est pas grave, vas-y.
Oui.
Hein, de toute façon, je vais revenir, t'inquiète pas.
Ok.
On va pas sauter les étapes.
Et donc, comme je t'ai dit, bah, l'idée d'AfriSend est née, et puis bah, j'ai décidé de faire ça en side hustle. Pendant un moment. Donc
pendant que tu étais chez PPG.
Exact, ça c'était en 2020. J'ai commencé à travailler chez PPG en 2018, donc 2 ans plus tard, après Saint-Denis, en side hustle. Et bah, j'ai tenu comme ça pendant 1 an.
D'accord.
Et donc au bout d'un moment, j'ai dit que j'allais sauter le pas et faire ça
full time. Plus,
quoi. Exact.
Ok.
Voilà.
All good. Donc on va revenir sur tout ça petit à petit. Comment t'as grandi? T'as grandi au Mali?
Ouais, Moi, je suis née grandie au Mali.
Et qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ton enfance, dans quel environnement? Qu'est-ce que ton enfance a eu comme impact sur la personne que tu es devenue aujourd'hui? Est-ce que tes parents étaient sévères? Donc, okay. Enfin, qu'est-ce que ça a eu comme impact?
Ouais, donc moi, je suis née grandie au Mali. Je viens d'une fratrie de 5.
Ok.
Mes parents ont toujours été yin et yang, en fait. Ils sont toujours good cop, bad cop, tu sais. Ma maman était souvent le bad cop, en fait, dans l'histoire.
D'accord, comme souvent.
Exact. Mais mon papa était entrepreneur. Donc souvent, pas là, parce que ses débuts, il voyageait tout le temps, voilà. Et donc, il était souvent pas là. Et quand je repense au moment où il était là, c'était tout le temps des quality time. Et donc, je pense que j'ai bien grandi parce que je suis alors assez équilibrée en tout cas de ce qu'on me dit. Donc, chapeau déjà à ma maman qui a su tenir du coup les rênes, papa et maman, exact. Donc, comme je t'ai dit, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, ça a toujours été, normal pour moi de charbonner parce que je voyais mon papa travailler jusqu'à pas d'heure. Ma maman, pareil, elle se réveillait, elle faisait tout ce qu'elle avait à faire. En fait, j'ai jamais vu personne rechigner à faire quoi que ce soit. Donc, ça me paraît normal de faire ce que tu as à faire pour arriver à... Voilà. Et donc, j'ai grandi, j'ai fait une école malienne, pas que l'école française.
Donc, jusqu'au bac.
Jusqu'au bac.
D'accord.
Parce que mon père trouvait que c'était la débauche dans les écoles françaises.
C'est vrai?
Ouais, parce que mes cousins étaient là-bas et c'était non, jamais en fait. Tu vois, okay. Donc j'ai grandi dans une école, j'ai fait une école même catholique, Notre-Dame, jusqu'au BEPC, ce qu'on appelle le DF chez nous au Mali. Par la suite, je suis allée dans un lycée mixte, donc
lycée féminin jusqu'en troisième,
exact.
Et de la troisième à la terminale, un lycée mixte.
D'accord. Exact. Et donc j'ai fait mon bac à 16 ans, donc il faut savoir que j'ai commencé l'école tôt, à 5 ans. Donc, j'ai mon bac à 16 ans et comme toute personne qui vient d'une famille moyennement aisée ou aisée veut aller aux États-Unis, en France,
au Canada,
ce que tu veux. Et mon père, il m'a dit jamais. Il m'a dit pas maintenant, t'es trop jeune, t'as 16 ans.
C'est vrai.
Donc, l'année d'avant, j'ai une cousine qui était partie en Tunisie pour que ça se passe si bien. Donc, il m'a dit, tu vas là-bas. Quoique, quand tu regardes, c'est toujours à 5 heures de Bamako, en fait, c'est la même distance par rapport. Non, voilà. Mais dans sa tête, ça restait dans l'Afrique. Donc, t'es pas très loin. Et effectivement, tous les 4 matins, ma maman venait me rendre visite, mais elle habitait avec moi limite, parce que tous les 2 mois et demi, elle était là.
T'es la plus petite de tes...
Moi, je suis la deuxième de mon papa, mais la première de ma maman.
D'accord.
Et donc, jusqu'à 16 ans, j'arrive à Tunis, je reste 3 ans, et ensuite je vais en France. Alors, je passe par la case Angleterre pour faire de l'anglais et tout ça, je vais y rester pour étudier, mais la vie a fait que non.
D'accord.
Je suis allée en France par la suite.
La vie a fait que non, tu veux expliquer ou...
C'est simple, la vie a fait que non parce que je devais renouveler mon visa, et je ne sais pas pourquoi. J'ai apply, 2 ou 3 fois. Ils ont refusé à chaque fois.
Alors que tu y étais pour tes études.
Mais en fait, exact. Parce que surtout quand tu regardais la liste de ce qu'ils demandaient, tu te rendais compte en fait qu'il n'y avait pas forcément de raison. Après, j'étais contente parce que mon mari, maintenant, avant copain, parce qu'on s'est rencontrés à Tunis.
Il était en France. D'accord.
Donc lui était le plus content de tous, tu vois.
D'accord, ouais.
Donc finalement, je vais en France. Je fais une école de commerce... au tout début, le LG.
D'accord.
Donc, je fais un master en finance internationale là-bas.
Toujours, vous voulez faire la finance ou c'était juste le choix du non-choix?
Alors, au début, j'ai suivi les traces de ma sœur qui a fait économie.
D'accord.
Puis finance, parce que quand tu es jeune...
Qui est la plus grande.
Exact.
Okay.
Quand tu es jeune et qu'on te... Je sais pas, on t'aiguille pas forcément, tu sais pas trop, donc tu fais ce qui a l'air cool.
Ouais.
Et à cette époque-là, ma sœur, elle me paraissait cool, j'aimais bien ce qu'elle faisait, donc j'ai fait exactement la même chose qu'elle.
D'accord.
Et donc finalement, il s'avérait que j'aimais bien la finance, donc j'ai continué dans ce sens-là. Donc j'ai fait 2 ans à l'ESG.
D'accord.
parce que j'avais déjà fait un bac plus 3, donc master. Et à la suite de ça, je me suis dit, je voulais faire une... Je voulais aller faire travailler dans les grandes entreprises. Sauf que tu te rends compte, en fait, que... Non, t'as fait l'ESG, c'est une école de classe je sais pas quoi. Alors que nous, les RH, on regarde le top je sais pas quoi. Voilà. Donc, avec ça, je vais faire un autre master à l'ESCP. Je me dis, ok.
D'accord. Mais je vois Schema aussi sur ton...
Ouais,
après Schema, d'accord.
Non, avant, c'était avant. Alors, ESGF, puis Schema. Pendant un an, parce que Schema, c'était toujours passé pour aller, c'est assez pour aller dans les régions, Lille ou ce que tu veux, mais c'est pas assez pour rester à Paris.
C'est pas assez pour le Schema.
Désolée, c'était Schema à l'époque, c'était Schema 2012-2013, donc je pense que maintenant, ils sont un peu plus
donc,
en
le... encore, même pas, il n'y avait pas encore eu la fusion, Sophie Antipolis.
C'était en cours, je crois que ça, ça, ouais, c'était pas exact. Ah. Et donc, après, je vais faire un master à l'ESCP. Audit et conseil. Et donc là, comme par hasard, toutes les portes s'ouvrent. C'est...
Ouais.
Genre, tu fais ton... En vrai, tu fais... tu commences l'école, on prend ton CV, on les envoie dans le big four, tu passes des entretiens. Avec... En fait, t'arrives comme un nuage, comme sur un nuage.
Est-ce
en fait.
Que tu as eu Thierry Boudès comme prof de stratégie? C'est vrai? Bon, le CP, il faut qu'il finance mon podcast à un moment donné.
Moi, j'ai eu... quand j'ai fait le CP, ma directrice de programme, c'était Anne Le Mans.
D'accord.
Qui a remplacé, comment il s'appelle, le vieux monsieur qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, paix à son âme, John Kennedy.
D'accord, ok. Voilà,
lui était directeur de programme de ce master-là, audit et conseil.
Et Thierry Boudès l'a repris après.
Non, pas toi, c'est le master finance peut-être.
Non, moi j'ai fait manager les grands projets, la transformation.
Ouais.
Mais je crois que audit de conseil.
Non, je crois que c'est Anne Le Mans. Je sais plus.
Jusqu'à maintenant.
Ouais, je pense que je me trompe. Bah, écoute, on vérifiera. Moi, je me trompe. Et donc, je fais le SCP. Je suis d'ailleurs la seule noire de ma classe à le SCP.
Oh.
Si.
En 2010.
Non, du coup, j'ai fait en 2015. Yes. Donc, j'étais la seule noire de ma classe. Ouais.
Ça a été une expérience particulière.
Ouais. c'est bizarre parce que tu te rends compte en fait que. Comment dire? T'as pas forcément le même vibe que les autres, parce que, à moins d'être né, grandi en France, on n'a pas le même vibe.
Ouais. You know. Donc, vous n'avez pas les mêmes dessins animés, vous n'avez pas fait les mêmes vacances.
Non, exact. Et souvent, je sais pas. Enfin, c'est deux mondes différents. Et donc, du coup, ce qui fait que tu te retrouves à être ami avec des minorités, parce qu'il y avait une chinoise. Il y avait une autre blanche aussi qui était. Il y a toujours des minorités qui se rassemblent pour faire un groupe, et ça fait comme ça. Et donc, je fais mon stage à chez Deloitte. Okay. Pendant 4 mois, je suis retenue et je commence mon CDI en septembre, octobre 2015.
D'accord.
Et donc, je reste 3 ans.
Ok.
Je passe senior.
Ok.
Et c'était, en fait, je m'étais fixé ce but-là. Je m'étais j'étais dit que je reste 3 ans. Et donc, au bout des 3 ans, je dis à mon mari, écoute, moi, je démissionne, j'en ai marre. Parce que du coup, toutes mes missions étaient en Suisse. Non, même pas en Suisse. Donc, je partais tous les lundis, je revenais tous les vendredis, t'imagines ? Horrible.
Pendant 3 ans ?
Je suis arrivée sur Dreyfus, ouais.
D'accord.
Ouais. J'avais d'autres petites missions à côté, mais
sur
c'était
la, sur la période d'audit.
Donc en fait, on y allait de janvier à limite avril.
D'accord.
Puis on avait encore une autre saison pré-auditée, c'est un cycle qui tourne. Voilà. Donc j'ai dit à mon mari, je démissionne. Il m'a dit, mais t'as pas encore trouvé de boulot, je démissionne.
J'en peux plus de faire ça.
Je démissionne.
Alors avant d'aller plus loin, pour des gens qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés par l'audit, en effet, c'était quoi, comment tu l'as vécu toi? C'était une période.
Franchement.
À part la partie voyage, bon, même pas avec la partie voyage, parce que ça compte.
Ouais, ça compte.
C'est une partie importante. Toutes les entreprises ne sont pas à Paris.
Ouais.
Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est une belle expérience pour toi?
Franchement, ouais. Et puis, je me rends compte que même maintenant, en fait, je réfléchis toujours pareil. C'est comme un camp militaire. Tu rentres pendant 3 ans, on te formate d'une certaine manière et tu réfléchis comme ça toute ta vie, tu vois. Moi, aujourd'hui, quand je rencontre des gens qui me disent « Ah, mais moi, je fais de l'audit ou j'ai fait du conseil dans un big four », tu restes de loi ta vie, en fait. Tu vois, c'est comme si tu... c'est la famille. Ça change pas. Et je dirais franchement foncez, mais foncez big four. Pour moi, ça ne sert à rien de faire de l'audit dans un petit cabinet, parce qu'on n'a pas les mêmes expositions, on n'a pas... Donc essayez, autant
que
faire
se peut.
Exact, aller dans des big four. Mais c'est une expérience à vraiment à faire, puisque ça change, comme je t'ai dit, ta manière de penser, de travailler et plein de choses en fait. Donc,
Et tu as gardé les liens avec les personnes de ta promotion
de l'époque. Ouais. Et ça reste pareil, c'est comme si c'est une classe, quoi. C'est, ouais, on grandit ensemble, donc ouais.
C'est pour ça que j'ai choisi d'aller en conseil quand je suis parti de l'armée de terre, parce que j'avais toujours connu une vie de promotion avec des gens qui ont fait la même expérience à un moment donné. Et donc, c'est hyper, moi, je trouve ça super bien d'avoir des amis de promotion avec qui on évolue ensemble, avec qui on peut dire qu'il y a beaucoup de concurrence parce qu'il n'y a pas autant de places de senior qu'il y a de junior.
C'est vrai.
Mais bon, c'est le jeu et puis,
c'est
et puis ça se fait comme ça. Ouais.
Okay. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai rencontré de belles personnes en plus pendant ça. Et des managers magnifiques. Franchement, ouais, des humains. Il y en a qui sont un peu robots, tu sais.
Bien sûr, malheureusement.
Exact. Mais il y en a qui sont très, très humains. Et du coup, vous gardez contact par la suite. Et ça, vraiment, c'est une belle expérience.
Okay.
Je ne regrette pas d'avoir fait et Schema et le STP pour pouvoir y arriver. Exact, ouais.
Ok. Et donc, Deloitte, donc tu pars, et tu disais que tu pars sans avoir de backup.
Ouais. Alors non, je démissionne sans avoir de backup.
D'accord.
Et en fait,
tu as 3 mois pour chercher.
Exact, j'ai 3 mois pour chercher. Et y a un mec qui m'appelle un jour, qui me dit, écoute, j'ai vu ton profil sur LinkedIn, ça nous intéresse, est-ce que tu veux passer un entretien? Ok, je me dis, écoute, j'y vais, c'est pas loin de là où j'habitais, c'était à Rueil-Malmaison, moi j'habitais à Colombes. Et donc j'y vais. Et là, je rencontre le manager, on discute. En fait, c'est même pas un entretien. Et là, ça clique direct. Il me dit, ok, je t'embauche.
Il venait d'un Big Four ?
Non, même pas.
D'accord.
Non. Lui, il vient vraiment de la cité, genre.
Ouais.
Pour dire comme ça, ouais. Il vient, c'est un mec de... C'est un arabe qui a grandi là-bas. Mais c'est toujours difficile. Donc, en fait, il était un peu seul dans son...
De l'environnement, de travail.
Ouais, et du coup, ça match direct parce que, common background. Et puis, on embauche.
D'accord.
Donc, j'ai mis un mois à trouver en vrai. J'ai démissionné, en un mois, j'avais trouvé. Et j'avais multiplié mon salaire par 2. Donc, pas mal.
Alors que Big Four ne paye pas trop mal.
Non, il paye bien. Il paye bien. En fonction des écoles, encore une fois,
écoles,
voilà,
il
faut
c'est...
bien préciser, parce qu'à l'entrée, on n'a pas tous les mêmes salaires.
C'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'est un sujet, après on peut en débattre, moi je sais qu'à l'époque, j'étais le premier à le justifier en disant bah oui, les écoles et compagnie, aujourd'hui je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est quand même un constat difficile de se dire que, sachant qu'on fait le même travail, il n'y a aucune différence dans le travail qui va être fait, donc la seule justification possible c'est de se dire, on parie sur le potentiel futur parce qu'on se dit qu'une personne qui a rejoint HEC a peut-être plus de potentiel que celui qui a rejoint, je sais pas.
Ouais. Je suis d'accord avec toi.
Je dirais pas d'école.
Ton analyse est bien parce que de ce que je comprends, c'est qu'ils disent que quelqu'un qui a fait HEC est un peu plus fut que quelqu'un qui l'a pas fait parce que pour déjà aller à HEC, t'as fait prépa, t'as fait d'accord. plein de choses.
La sélection.
D'avant, exact. Et aussi, ils mettent des CV de ces gens-là dans leurs appels d'offres. Donc en fait,
les clients sont plus en train de payer
c'est
que de payer autre chose. Et puis, du coup, tu es obligé de payer un peu plus quelqu'un d'HEC pour qu'il vienne chez toi et pas qu'il aille ailleurs.
Ah ouais. Alors moi, je crois, à l'entrée, j'avais quoi ? J'avais 7K de moins qu'un mec d'HEC. Je sais pas si tu te rends compte. 7K de moins.
Si on se reprend de 2015, je pense que tu devrais être rentré à 38 par là et donc 45 un gars d'HEC qui est rentré. D'accord. 45 qui est pas loin de 2 800 € mensuels.
Ouais, 7K de moins.
Ouais,
c'est énorme. Sauf que c'est quelque chose. Tu dis, écoute, that's life.
Ouais.
Après, ça monte vite parce que tu as des augmentes chaque année et qui sont l'ordre entre 8
et 10%.
Donc ça va vite après. Même si la personne qui est à 45 ne reste pas statique
non
plus.
Oui, il va avancer. Mais il n'y a pas une. Enfin, nous, en tout cas, chez PwC, il y avait une régule aux alentours du grade senior.
Ouais. Tout le monde se retrouve seniors. Au bout d'un moment, ouais, exact. Ouais, t'as un écrémage naturel et puis y a tout le monde se retrouve un peu au même, 2, 3, 4 plus peut-être, au grade de senior,
senior manager,
exact.
Ok. Et donc PPG, ça se passe.
Ouais, donc PPG, j'arrive, ça se passe super bien. Mon manager, je pense que c'est le the best manager que j'ai eu. Je le dis tout le temps, franchement. Parce que,
reste en contact avec lui.
On s'écrit des fois. Mais même avec toute l'équipe de PPG, en fait, toute mon équipe, on est resté en contact. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui avait ce côté humain hyper développé. Donc en fait, simplement, je pense que c'est la différence entre un manager et un leader. Tu vois, pour moi, quand tu travailles dans une boîte, en fait, tu ne travailles pas pour la boîte, tu travailles pour ton manager.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu te sens... si ton manager arrive à te faire travailler pour lui hors horaire ou ne pas le laisser tomber parce que tu n'as pas fait une tâche ou que tu vois, un peu ce que je veux dire, là c'est un leader.
Carrément.
C'est pas un manager.
En fait, ce que tu, c'est hyper important que les gens entendent et le comprennent, c'est que quand tu es dans une entreprise, l'image de l'entreprise pour toi, c'est l'image de celui qui te chapeaute. C'est ton boss, c'est ton patron. Quoi. Ton N+1 est l'image de l'entreprise. S'il n'est pas sympa, tu te diras, l'entreprise n'est pas sympa parce que voilà, là, comme on dit, l'entreprise n'a pas de mémoire, mais c'est parce que le manager en lui-même, s'il n'a pas de mémoire pour toi, en tant que manager, il faut... faut être l'image de l'entreprise, parce qu'on ce que prônent les valeurs de l'entreprise, il faut les incarner, sinon l'entreprise n'est pas bienveillante, n'est pas
exactement. C'est exactement ça. Et je pense que lui, il avait bien compris, mais après, je pense que c'était aussi naturel, c'était dans sa nature d'être comme ça. Parce qu'il y a des gens qui, c'est naturel.
Bien sûr. C'est un développeur, il t'accompagne, quand tu fais une erreur, il te laisse une deuxième chance.
C'est ça, il t'explique. Exact. Et voilà. Donc ça change tout. Et donc je reste 3 ans là-bas. Et puis après, je reste 3 ans, pas vraiment, parce que je suis tombée enceinte entre-temps. Donc j'ai eu pas mal de vacances en vrai. Je travaillais pas. Et donc par la suite, j'ai décidé de sauter le pont et de me dire
Afrisound.
On va tester.
Et donc Afrisound, donc tu l'as déjà un peu expliqué, mais on va revenir dessus. Tu as expliqué d'où part le besoin et d'où tu lances ce projet. Tu lances ce projet en France. On va revenir dessus, mais à un moment donné, tu décides de t'installer à Abidjan.
Ouais, alors.
Parce que là, on est à Abidjan.
Exact, c'est vrai.
Today.
On est précisément à ITC.
C'est ça.
Donc, vous pouvez. Alors, Afrisound, je le lance à Paris, effectivement, dans mon appartement. Donc, au début, mon appartement, je recevais des colis chez moi, quoi. En fait, j'avais mon adresse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai lancé l'entreprise, je réfléchis aux différentes options qui pouvaient convenir à différents types de clients, selon mon persona. J'avais des clients toujours en se basant sur une base de clients qui vivent en Afrique.
D'accord.
Donc j'avais une problématique des gens qui n'ont pas de carte bancaire.
Ok.
Une problématique des gens qui, eux, ont une carte bancaire, mais qui ne savent pas forcément comment recevoir leur colis, tu vois. Donc ils ont juste besoin d'une adresse de réexpédition. Exact. Et aussi les gens de la diaspora qui voulaient, qui veulent envoyer des affaires. Donc je me suis dit, écoute, tu lances sur
trois produits.
Exact, trois produits et tu vois comment ça fonctionne. Et donc j'en parle avec ma mère, mon père, mon mari, tout le monde. Tout le monde me dit, vas-y, teste.
En plus, c'est une activité
exact, light en capex. Il n'y avait pas d'investissement. J'ai acheté littéralement une puce à 2 euros le lébarras au bout de la rue.
Ok, pour ne pas que ce soit ton numéro classique.
Exact, c'est ça. Okay. Donc j'ai lancé un WhatsApp. Ouais, j'ai fait 2-3 Canva pourris que j'ai passé à plein de gens.
qui ont fait un lance ce projet, d'accord.
Exact, et j'ai commencé à avoir mes premiers clients.
Okay.
Et je me rappelle, ma première cliente, c'est une amie qui a passé commande. Et je me rappelle lui avoir dit, j'espère que tu vas me porter chance. Parce que la première cliente ou le premier client, souvent, alors moi j'y crois, c'est souvent...
C'est celui
Exact. Et donc, ce que je te disais, premier mois, bon, je ne vais pas répéter les chiffres parce que bon, voilà. Mais on était bien, le premier mois.
Tu ne veux pas en parler, les chiffres? Ah non, ouais, d'accord, faut pas...
Ouais.
Ah, ouais, ouais. Reste dans ton dossier.
Exact. Tu as tout compris. Premier mois, on fait le bilan. Avec mon mari, on me dit waouh, en fait, tu arrives en marge, tu arrives à générer ton revenu.
Ok.
Donc là, ça donne un ordre. Et je continue comme ça, service client, les gens ils m'écrivent. Donc mon appartement est très vite devenu un entrepôt.
D'accord.
C'est qu'il fallait enjamber les colis. Voilà, mon mari il a soulevé pas mal de sacs remplis de colis pour les gens. Et donc, on a fait ça pendant les 6 premiers mois.
Okay.
Au bout d'un mois, je me suis dit, j'en peux plus. Mon appartement ne peut pas rester comme ça, en fait. C'est impossible.
C'est fatigant.
Ouais, donc il faut que je trouve une autre solution. Donc, on a commencé à explorer. Et là, je parle avec ma mère, je lui explique. Je lui dis, mais en fait, mon appartement est très... Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, elle connaît tout le monde.
Okay.
Elle connaît tout le monde au match. Je lui dis, tu peux pas avoir un problème que cette dame ne connaît pas quelqu'un. Non, c'est pas possible. Et donc, je lui en parle. Elle me dit, mais tu sais, ma pote là, en fait, avec donc, ma tante à moi, une amie à elle, son beau-frère est transitaire. Il travaille dans les frais. Donc, appelle-le, peut-être qu'il peut aider. Ok, je l'appelle. Et lui, il me dit, mais oui, en fait, je peux t'aider. Contacte telle personne en France. J'appelle la personne. La personne, elle me dit, mais avec plaisir, je reçois tes colis chez moi.
Ah, parce que du coup, la personne avait... Ok, d'accord.
Oui, la personne avait d'entrepôt. Donc, comme ça, je commence à... Du coup, j'annonce un changement d'adresse à mes clients. Et j'ai maintenant, les colis vont là-bas.
Et un changement de prix aussi, peut-être, non, parce que... Non ?
Non, pas pour l'instant.
Mais toi, tu payes quand même, ce monsieur. Ah, il te fait pas payer.
Ouais.
Ok, d'accord.
Et le monsieur, il me dit non, je ne te fais pas payer pour l'instant. Okay. Parce que moi, je crois en ton projet. D'accord. Et je pense que ça va
pouvoir.
On pourra faire des choses ensemble. Donc, pour l'instant, je te délimite une zone, tu reçois tes colis là.
Okay.
Et donc, je reçois mes colis là. Maintenant encore, on reçoit toujours des colis là. Mm. Et on est devenu limite amis, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, il nous aide beaucoup, donc moi. Et donc, mes colis vont là-bas. Et on continue. Et au bout d'un moment, j'ai mon mari, écoute, moi, je suis fatiguée de faire des deux boulots parce que du coup, j'avais personne. Il fallait que je réponde au service client, que je fasse des factures et que je suive les colis et je fasse mon travail de contrôleur de gestion. Pas très sexy. Et donc, je lui en parle. Il me dit, écoute, teste. Tu verras bien ce que ça donne. Et parce que lui, il est toujours très supportif de ce que...
Bien sûr, de voir en train d'entreprendre.
Exact.
Et lui, à ce moment-là, il a suffisamment de revenus pour gérer au cas
où... Lui, il est toujours salarié.
Oui, d'accord.
Puisque tu connais les hommes, comme ça, toujours, Il est toujours salarié, même s'il en a marre. Mais bon, on ne peut pas avoir deux entrepreneurs
dans
qui se
sacrifient.
Et je le remercie pour ça. Et donc, je lance. Comme ça, j'ai pu négocier un pactole de départ, blablabla. Donc voilà, on était bien. Voilà.
Important.
Exact. Et donc, on a créé officiellement l'entreprise au Mali en 2021.
Tu pars en rupture conventionnelle. Hein.
Ouais,
d'accord.
Conventionnelle.
Ils sont chiants ou pas à te la donner facile?
Non, parce que je
parce que ton manager.
Non, mon manager,
il était parti.
Il était parti. Enfin, il avait changé de poste. Donc, on avait un autre manager. Mais bon, on avait un autre manager avec qui. Ouais, non, en fait, non, ça passait pas.
Ça passait pas.
Non, et entre-temps, je suis retombée enceinte, donc tant mieux.
Ok.
J'ai dit, écoutez, je suis enceinte, laissez-moi tranquille. Et puis j'ai négocié, parce que du coup, comme je t'ai dit, les filiales ont été vendues.
Après les filiales africaines.
Ouais, ont été vendues, donc entre-temps, moi j'ai pu négocier, et puis ça s'est fait.
Ok.
Tranquillement, j'ai de la chance.
Tu contrôlais les filiales africaines.
Exact.
Ah, ok.
On m'a proposé un autre poste, mais ça ne me disait pas, bref. Moi, j'avais la tête à faire ça, en fait.
Exact.
Et donc je pars, comme je te disais, on a créé en 2021. Au Mali, officiellement.
Okay, okay.
Tout ce qui est papier légal et tout.
Donc, tu avais déjà la société en France?
Non, c'était un side hustle.
Okay, d'accord.
C'était juste un side hustle. Elle n'existait nulle part, que sur WhatsApp, pour te dire.
Et du coup, pas d'impôt?
Non.
Je payais. Ok,
non.
D'accord.
Non, je payais rien du tout à ce moment-là.
Okay.
Parce que vraiment, side hustle, voilà.
Ouais.
Ni vu ni connu.
D'accord.
Et donc, après, je crée légalement l'entreprise parce que j'ai une vision.
Ouais.
Et je me dis qu'on peut faire mieux, beaucoup mieux. Mais il faut que ça soit dans les règles de là.
Okay.
Donc, on crée la société en 2021 au Mali. Puis ça commence. Donc, j'embauche déjà ma première recrue au service client.
Okay.
Qui commence à
au Mali.
Au Mali. Non, elle était en France à l'époque. Parce que ce qui est bien, c'est que tu peux travailler en remote.
Bien
par
sûr.
Exemple, c'est sur WhatsApp. Voilà. Donc, elle était en France. Elle étudiait en même temps. Donc, c'est une étudiante en même temps qui faisait ça. Elle avait pas mal d'heures de libre. Bref, elle faisait ça. Donc elle restait avec moi pendant 2-3 mois, je crois. Après, elle devait reprendre les cours un peu plus sérieux. Exact. Et donc, elle ne pouvait plus. Donc, je me replonge dedans.
Okay.
Et puis, on va passer 6 mois. Alors, 2021, toute l'année comme ça. Ouais, je me replonge dedans. Puis, en fin 2021, je dis à mon mari...
Covid, écoute, tout ça.
Exact. Et pendant tout ce temps, mon mari, il ne vivait pas en France. Il travaillait au Sénégal, il a fait un an au Sénégal, puis il était en Côte d'Ivoire.
Okay.
Donc il faisait des va-et-vient, il restait 6 mois avec nous, un peu plus.
Son job était full-time au Sénégal, et donc vous aviez déjà projet de partir
à un moment, il faut rentrer.
Ouais, bien sûr.
Exact, à un moment, tu es fatigué, tu veux rentrer chez toi, et puis voilà.
On en parlera, mais du coup, vous aviez terminé vos targets pays.
Non,
où on nous propose des choses.
Alors, on savait qu'on pouvait pas, on voulait pas aller au Mali ni au Niger, parce que lui, il est né grandi au Niger.
D'accord.
Parce que économiquement, c'était pas les deux.
Okay.
Voilà, la transition est pas forcément. Aurait été un peu plus dur d'aller là-bas. Mmh. Mais n'empêche qu'on se dit, écoute, on va faire 6 mois au Mali. Donc, on va faire 6 mois au Mali. Ça se passe très bien. On voit qu'il y a pas mal d'opportunités et tout, parce que surtout, en fait, t'as un acquis là-bas. Oui, c'est que bah, t'as tes parents, ils connaissent plein de gens, ça aurait été beaucoup plus facile d'aller là-bas. Mais on s'est dit, non, on va tester la Côte d'Ivoire parce que on connaît plein de gens qui sont venus, pour qui ça se passe très bien. Et pour la transition, comme je t'ai dit, la Côte d'Ivoire faisait un peu plus sens pour nous. Donc lui, il avait déjà trouvé son travail ici. Parce que lui, il a fait la Banque mondiale.
D'accord.
Au Sénégal. Puis il est passé côté banque d'affaires, donc ici. Il a trouvé un autre travail ici.
En finance
toujours. En finance toujours, oui. D'accord. Toujours énergie, financement structuré, tout ça. Donc moi, je me dis, écoute, on vient.
Énergie.
Énergie renouvelable.
Ton mari s'appelle Robert.
Oui. La D'accord. mine, il s'appelle okay. la mine.
Je vois très bien qui c'est marrant que je découvre là maintenant.
C'est vrai qu'il m'a dit, effectivement, ouais. Il m'a dit, j'avais complètement zappé. C'est vrai, ouais, ouais. Je dis, mais je fais un podcast avec Malik, il me dit, mais oui, mais je le connais.
Ça, c'est vrai marrant.
Ouais, effectivement, okay. Tu le connais.
Okay.
Donc, c'est bien lui.
Okay.
Donc, je sais plus ce que je disais. On décide de venir. Le monde est très petit.
Avant l'épisode.
Ouais, c'est ça.
C'est marrant.
Là, ça nous fait, ouais. Prise de fou rire, là, mais ouais. Donc, on décide de venir en Côte d'Ivoire depuis mars
okay.
de ces années. Moi, je suis là avec les enfants.
Okay.
Et ça se passe bien.
Pas trop
j'aime bien. Okay. J'aime bien la Côte d'Ivoire parce que, en fait, tu sens vraiment l'opportunité de faire des choses différemment. Et voilà. Et je pense que c'est le pays qui me fallait.
Et pour rentrer.
Exact.
Donc, ce sera beaucoup plus cher. Enfin, on conseille aux gens qui veulent. Parce qu'en fait, c'est déjà le cas, hein, la Côte d'Ivoire.
Attire plus de gens.
Attire beaucoup de gens de l'ensemble de l'Afrique. Là, ils ne veulent pas forcément rentrer directement dans leur pays. Cameroun, Mali, Sénégal. Donc...
Franchement, ouais, sautez le pas. Puisque bah, déjà, il n'y a pas de barrière. Tu ne te sens pas étrangère, en fait.
Oui,
il y a des pays où tu te sens que tu n'es pas du pays, quoi. Parce que soit tu ne parles pas la langue, tout le monde parle une langue commune. Voilà. Il n'y a pas du tout ça ici. Et tout le monde a les mêmes chances, tu vois. Et là, c'est vraiment très bien.
Et je pense même que. Enfin, on ne peut même pas savoir que tu es malienne en Côte d'Ivoire. Tu fais ta vie classique. Ouais.
Personne ne te pose la question d'où tu viens. À moins que tu aies un accent particulier. Sinon, personne ne te demande. C'est même pas un sujet, en fait.
Non.
Donc, ouais. Donc, ça, pour ça, c'est vraiment c'est très bien. Il y a pas mal de choses à faire. On ne peut pas s'ennuyer ici. En vrai, sauf si toi-même tu veux t'ennuyer, sinon il y a toujours un truc à faire. Donc, franchement, c'est cool. Pour ceux qui veulent rentrer ou qui pensent à rentrer, je pense que. Et qui ne veulent pas forcément aller dans le. You know. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est une bonne transition avant de rentrer, si jamais ils veulent rentrer, ou même faire leur vie ici. Mais en tout cas, rentrer.
Ok. Et donc, toi, tu le rejoins.
Yes, depuis mars.
Et depuis mars 2022.
23
20...
Là, ça fait que quelques mois que je suis là.
Ok, donc tu es à Paris jusqu'en mars
J'ai fait 6 mois au Mali, puis on est reparti à Paris. On
d'accord.
a jumpé, on s'est dit, ouais.
Il fallait tout fermer, tout arriver, ok, d'accord.
On n'a rien fermé en vrai, juste fermé la liste.
Ouais, fermé, mais libérer l'appart.
Non, même pas.
L'appart est gardé.
L'appart est gardé. Juste faire des valises.
Donc, juste faire
des
valises.
Exact. Préparer la rentrée, c'est tout.
Et du coup, ça a rien changé toi en business parce que c'est un full remote.
Non, ça a rien changé. C'est vraiment ça la magie. Ce qui est bien du coup, c'est que entre temps, ce que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai embauché plus de personnes au Mali.
D'accord.
Donc on a des bureaux, on est dans un coworking space un peu dans l'équivalent du plateau ici.
D'accord.
Donc en fait, ACI 2000, on a nos bureaux, service client, B2B, B2C. On a un client satisfaction manager, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est satisfaction client. On a une personne qui s'occupe de tout ce qui est logistique. Donc ça a grandi gentiment.
Et puis du coup, finance, c'est toi ?
Comment ? Ouais, finance, c'est moi.
Tu gères
finance,
direct.
Stratégie, tout ça, c'est moi.
D'accord.
Pour l'instant.
Okay.
D'ailleurs, je cherche un associé tech. On sait jamais.
Bah ouais,
s'il y a des gens qui. Ouais, un associé tech.
Parce que là, pour le moment, il y a un site. Pas d'application encore.
Non,
il y a
un site internet, il y a une plateforme de suivi.
Qui a été développé par un bureau d'études et compagnie, d'accord.
Mais en fait, ça change tellement. Il y a tellement de tout le temps. En fait, ils font un associé tech. Parce qu'il faut quelqu'un qui passe son temps à développer.
À faire ça.
Exact. À faire ça.
Alors, tu dis associé tech. Tu dis pas employé tech. Tu veux un CTO, tu veux qu'il soit associé.
Ouais, je veux qu'il soit associé. Parce que pour moi, in fine, dans le temps, on sera une boîte de tech.
Ok.
Donc, il faut un associé tech. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sente
C'est logistique tech, il faut que tu sois quelqu'un qui soit involve, impliqué à fond.
Sinon, ça ne marche pas. Si tu es juste un employé,
oui, tu n'auras pas le même commitment.
Même moi, enfin, Okay. Et moi, j'ai pas de mal à partager, donc c'est l'Afrique qui gagne, quoi.
Bien sûr, il faut que je regarde. Je vais y penser aussi. Et puis, bon, bah, ceux qui écoutent le podcast, s'il y a des techs, il peut être partout dans le monde.
Remote, ça, je m'en fous. Au moment que tu gères ce que tu dois faire, moi, j'ai pas de problème.
Okay.
Donc, voilà.
Ça marche.
Donc, je sais plus ce qu'on disait, Malik.
On disait, c'est moi qui avais coupé le cours et que je voulais reposer une question. Donc, là, installé. Et tu cherches un associé de tech. Donc, en fait, là, sur ton développement, tu veux arriver à une boîte tech. Aujourd'hui, tu as 3 ou 4 produits, j'étais sur ton site tout à l'heure.
On a plus de produits que ça.
Plus de produits que ça. Je crois que j'en ai vu 6, il y a 2.
En fait, on a... Donc, on est... En fait, on a deux segments. On a B2B et B2C. Donc, B2B, c'est les entreprises et B2C, c'est les particuliers. Donc, dans la gamme particulier, on a du personal shopping.
Ouais.
Ceux qui veulent qu'on se déplace en magasin, parce qu'il y a des magasins spécifiques qui ne vendent pas en ligne, type Creed, par exemple. Les parfums, ça, t'es obligé de te déplacer en magasin. Donc, il n'y a pas de vente en ligne. Certains trucs, il faut se déplacer, quoi. Donc,
et ça, tu as quelqu'un à Paris qui est prêt à bouger et qui se déplace pour faire ça. D'accord, je vois tes prix. On peut dire les prix.
Bien sûr.
Donc, tu disais les prix, donc sur du personal shopping, c'est à la c'est pas en fonction de la valeur de ce que tu achètes.
Non.
Non, toi, tu fais pas ça. Parce que normalement, les conciergeries vont te prendre un pourcentage de la valeur.
Alors pour moi, en fait, la facturation est en deux temps.
D'accord.
Donc, les prix que tu vois là sur le site, c'est le prix pour que quelqu'un se déplace.
D'accord.
C'est différent.
Qu'il achète ou il n'achète pas, 50 euros demi-journée, 100 euros si tu l'occupes la journée.
Effectivement, quelqu'un peut ne pas acheter.
Bien sûr. Voilà. Oui, tu peux.
Et donc, c'est ça.
Intéressé par le produit.
Une fois que la personne achète, on a des frais de service.
D'accord.
Enfin, donc là, on fonctionne comme une conciergerie. On prend un pourcentage de la valeur du panier.
Ok, d'accord.
Donc on a toutes les autres offres dont je t'ai parlé, achat avec carte bancaire, sans carte bancaire, réexpédition de colis, la diaspora et tout ça. On fait de l'aérien et du maritime.
Ok, donc si je veux que mon produit arrive demain ou après-demain.
Non, aérien. Parce qu'on ne fait pas d'express, on fait fret.
T'as normal. Des jours de délivrer.
Exact, on expédie une fois par semaine, tous les jeudis.
Ok.
Le délai de réception est différent en fonction des pays.
Okay.
La Côte d'Ivoire, par exemple, on expédie le jeudi, mais la personne est livrée le lundi, par exemple.
D'accord.
C'est un peu plus rapide.
Le temps d'arriver ici, de faire.
Exact. Sur le Mali, en ce moment, avec les problèmes, on est toujours une expédition jeudi, vendredi. Enfin, alors, on clôture l'expédition jeudi, c'est-à-dire que nous, on arrête la semaine. Les colis entrent en compagnie pour l'expédition en fret, mais elles ne quittent la France que dimanche soir, en réalité.
D'accord.
Quand on réfléchit par jour ouvré. Et donc Air France est banni du Mali pour l'instant, donc on est sur une autre compagnie aérienne fin de fret. Et donc là on livre les colis le jeudi au lieu de mercredi avant.
D'accord.
Donc on a un jour de shift. Donc on couvre le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Niger. Et pour l'instant donc sur le segment B2B pour les entreprises, ça va être un peu plus sérieux. Donc, cela, on va faire du sourcing, de l'achat, de la logistique et de l'entreposage. Sourcing, ça veut dire qu'on vous aide à trouver les fournisseurs fiables et les produits de qualité en fonction de ce que vous cherchez. On a des clients, par exemple, qui ont des réflexes de chercher ce qu'ils veulent acheter, entreprise, sur AliExpress. Alors que Alibaba, c'est ce qu'il leur faudrait. Parce que c'est des grossistes, Alibaba, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, en fonction des quantités, tu vois. Donc, souvent, on fait économiser pas mal d'argent aux gens, comme ça. Parce que, bon, toi, tu nous dis, moi, je vais acheter 25 000 ordinateurs sur Alibaba. Ça va te coûter, je dis n'importe quoi, 50 000 euros. Enfin, sur AliExpress, pardon. Et sur Alibaba, ça va te coûter 25 000, la moitié.
Ok.
Tu vois.
Donc, si demain, je lançais un business de trucs pour enfants, là, tu sais... enfin, les trucs gonflables pour enfants.
Les châteaux gonflables.
Châteaux gonflables. Ouais. Et je dis, je viens te voir.
C'est ça.
Si j'en veux 10.
C'est ça. C'est aussi simple que ça. Aussi simple
que ça. Mais le sourcing est du coup si tu factures.
Oui.
Ok.
Oui, oui.
Et ensuite, l'achat.
L'achat, en fait.
Si j'ai pas ma carte bancaire qui peut payer directement, je te donne en CFA. Mm-hmm. Toi, tu achètes. Mm-hmm. Ça aussi, tu me factures. Mm-hmm. Ensuite, la logistique. Donc de...
J'aime bien le ça aussi, tu me factures. Je vais te faire le flow. Attends.
Ok, vas-y, pardon. Je vais parler toi.
Ok. Tu vas acheter tes châteaux gonflables. Mm-hmm. Tu sais pas comment chercher. Mm-hmm. Mais tu as une photo de ce que tu veux, par exemple. Tu m'envoies la photo. Mm-hmm. Tu me dis, écoute, Africain, bonjour, moi, je vais acheter ça. Mais je ne sais pas comment chercher.
C'est sur WhatsApp. Hein.
Sur WhatsApp, okay. Par mail,
c'est
comme
ton...
tu veux.
Oui, le mail, WhatsApp, c'est les deux points d'entrée.
Exact. Donc moi, nous, on regarde. On te revient avec des propositions en disant, voilà, on a trouvé ce produit-là à ce prix-là. Okay. Chez tel fournisseur A, fournisseur B, fournisseur C. Voilà, les critères, mm-hmm. Tata. Est-ce que ça vous va? Là, tu me dis, ok,
je choisis
ou tu me dis, ah, finalement, c'est bon, j'ai trouvé. Donc à ce moment-là, tu n'es pas facturé. J'ai fait le travail de recherche, mais je ne te facture pas.
D'accord. Si moi je prends dedans et je vais me démerder après, tu ne me factures pas.
Oui, mais tu ne peux pas prendre dedans parce que tu ne sais pas c'est qui le fournisseur.
Tu ne mets pas les noms et compagnie, tu mets juste les poubelles.
Bien sûr. Parce que sinon, ouais, Malik va dire, mais écoute, moi-même, je vais aller contacter.
Bien sûr.
Afrique, on est en Afrique, Malik.
Bien sûr, t'as raison.
Donc, tu me dis, écoute, voilà, fournisseur A, je vais acheter 25 unités de ça.
D'accord.
Ça me fait 1000 euros, les 25 unités à acheter. Okay. Donc là, moi, je te facture 10%.
D'accord.
Parce que c'est 1000 euros. Oui. Si c'est 10 000 euros, je te facture moins. 100 000 euros, je te facture encore moins.
Ok.
C'est proportionnellement moins.
Et ça, du coup, tu me le dis c'est au
moment. Oui, je te dis par palier, en fait. Voilà, d'accord. Les tarifs sont tout autant. Par palier de 5 millions, vous avez une réduction de prix de frais de service.
D'accord.
Et donc là, tu me donnes l'argent par Orange Money, par Wave, par ce que tu veux, virement bancaire, dépôt.
Cash,
j'évite parce que je ne sais pas d'où vient ton argent, je préfère que tu ailles déposer toi-même sur le compte, tu vois. Et puis, nous, on fait l'achat.
Okay.
On te fait ton expédition et on te livre chez toi.
Okay.
On fait l'achat, bien sûr, une fois qu'on reçoit la marchandise, je te dis, ça pèse 10 kilos ou 25 de volume. Parce que dans le fret, c'est différent. Tu as deux métriques de calcul, tu as le volume ou le poids. Et ça, souvent, les gens n'ont pas bien compris, ils ne cernent pas trop. Parce qu'ils ont toujours le mindset...
Ça pèse pas, ça n'a rien à voir.
Ou
ouais.
Je l'ai acheté à 2 euros. Comment je peux payer 100 euros pour... En fait, ça ne veut rien dire.
Et ça, c'est à partir du moment... Parce que du coup, tout ce qui est logistique... Quand je te dis je veux 1000 euros de château gonflable, tu ne peux pas savoir à ce moment-là combien ça coûtera de me l'envoyer à Abidjan.
Si, alors moi, je demande toujours au fournisseur de me donner tout ce qui est PR1, volume, devis, CPM, tout ce que tu veux. Comme ça, moi, je sais combien ça coûte.
D'accord. Donc,
et je peux te dire...
Et quand je te dis je veux 1000 euros de ça, toi tu me fais une facture globale en me disant ok, le prix d'achat ça sera ça.
C'est ça, et l'exposition ça fera ça.
Ok.
Là on est toujours dans.
Ça j'ai déjà payé après.
Ouais. Non, le sourcing, je te facturerai pas pour l'instant le sourcing.
D'accord.
Par contre, la prochaine fois quand tu reviendras, je te dirai monsieur, vous devez payer le sourcing parce que bon, on travaille quoi.
Ok.
Tu vois, et donc je t'expédie ton colis et une fois que le colis est à Abidjan, je te livre chez toi.
Ok.
Je t'occupe de rien, on fait tout. Achat, douane, tout ce que tu veux.
Okay.
Et même si tu as besoin d'entreposer, tu me dis, moi j'ai commandé, 10 000 euros, ça fait 100 châteaux gonflables, mais j'ai pas où les mettre.
Pas de place.
Donc moi je te dis, ok, on te les entrepose chez nous, et puis tu payes en fonction du mètre carré.
Et faut bien comprendre ça, tous ces différents métiers.
C'est différents métiers.
Ça, tu fédères toutes ces personnes qui font ça.
C'est ça.
C'est ça. Donc tu es à Abidjan, tu as un contact d'entreposage.
C'est ça. Donc moi, en fait, je fais plusieurs métiers que je rassemble en un point.
Pour que ce soit facile
toi,
de mettre une personne.
Tu n'es pas à parler à 25
bien
personnes.
Bien sûr.
Toi, tu ne connais que Arisan. Voilà.
Mmh. Parfait.
Et donc, c'est ce qu'on veut faire à grande échelle. Parce que, à aujourd'hui, quand tu penses logistique, tu penses à qui? Quand je te dis logistique, à qui tu penses?
Voilà, tu m'as dit, j'ai UPS qui est venu en tête là tout de suite.
UPS.
Ouais.
Écoute, il y a UPS, tu as du DHL qui vient plus ou moins. Pour la logistique de gros, tu as Bolloré. Bon, maintenant,
AGL.
J'ai
dit qu'ils avaient un gros entreposage à l'aéroport.
Ouais. Mais en fait, quand je regarde bien, il n'y a pas d'Africains.
Non.
Pourquoi? Je ne sais pas.
Ouais.
Donc, on va essayer de changer ça. Parce que qui comprend mieux nos problématiques que nous-mêmes, en fait
Là, il y a la zone de libre-échange qui est en train de se lancer. Donc, je pense que J'allais dire ton prochain développement stratégique serait peut-être Afrique, mais en même temps, toi en tant que start-upeuse et entrepreneur, je suis les flux.
C'est ça.
Si les flux ils sont pas volumineux entre Afrique et Afrique, il n'y a aucune raison que tu t'embêtes sur ces corridors-là.
Complètement. Parce que moi, aujourd'hui, c'est que ce qu'on veut faire, nous, notre mission, c'est de rendre facile et fiable la chaîne d'approvisionnement pour les Africains.
C'est la mission de ton entreprise.
Exact. Il faut qu'on soit sur la carte du commerce international. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes les peines du monde à recevoir ou envoyer ce qu'on veut. Parce qu'en fait, du moment où tu n'es pas une entreprise gigantesque, tu ne sais juste pas comment faire. Tu ne sais pas. Parce que tu ne vas pas penser DHL, Bolloré, parce que dans ta tête, tu les as déjà catalogués extra chers.
Bien sûr.
C'est pas possible. Donc tu te dis, je vais demander à mon cousin qui habite à Petoschnack s'il a une minute entre deux trains pour faire ça. Sauf que il n'aura jamais le temps, ton cousin, en fait. Parce que la vie là-bas, elle est, c'est le rush. Personne n'attend d'aller à l'aéroport. Et donc ça, c'est pour toi en particulier. Déjà, tu as cette contrainte-là, ce qui fait que c'est impossible, en fait. Parce que moi... Tout ce qui tu sais, tous les réflexes que tu as quand tu vis en Europe, pourquoi tu ne pourrais pas avoir les mêmes ici?
Oui, ta vie est simple, Amazon, je commande, ça vient
mais
demain.
Mais je suis la plus grande consommatrice d'Amazon, tu commandes, ça vient et tout ça. Et moi, mon but, en fait, c'est de te faire sentir comme si tu vivais là-bas ou même pas. En tout cas, que tu as le même lifestyle.
D'accord.
Tu n'as pas de changement. Ton colis Amazon, je te le donne comme je l'ai reçu d'Amazon. C'est pour ça qu'on n'a pas le chemin express là.
D'accord.
Parce que express, ça veut dire à moins que tu aies un minimum de d'expédition.
Okay.
Pour passer par du fret. Tu as un minimum d'expédition.
Okay.
Express pour un colis, ça voudrait dire que tu passes forcément par un voyageur. Donc les gens qui te disent je prends ton colis, je te l'envoie demain, c'est un voyageur qui l'a envoyé. Et ton colis, forcément, il arrive concassé, il arrive. Après, tu peux t'en foutre de ça.
C'est un autre mindset. Enfin, si tu peux être dans l'urgence et avoir un truc envoyé demain, j'envoie demain. Mais si du moment où c'est un achat organisé, je sais qu'il y a l'anniversaire de temps dans 3 semaines, je m'organise.
C' 'est ça en fait. Donc moi, quand tu me dis je vais faire un achat, j'ai besoin d'un truc pour lundi, mais je te dis non, c'est pas nous. Mais c'est toi, non.
Moi je pourrais pas lundi, mais je le fais jeudi si ça te va, si ça te convient.
C'est ça. Et l'une de nos valeurs, c'est aussi la transparence. C'est qu'on ment pas aux clients. Si j'ai un problème sur ton colis, je vais t'appeler. Je vais dire, Malik, écoute, il y a tel problème sur ton colis. Tu peux être fâché. Tu peux ne pas être content.
Oui, bien sûr.
Mais at least, tu connais la vérité. Tu sais la vérité. Tu
as des assurances sur les produits.
Ouais, on assure nos produits. On assure nos expéditions à 1% de la valeur de ton panier.
De ton panier.
De ton panier. Si tu achètes, je sais pas moi...
C'est un produit en plus.
Oui, c'est un produit en plus.
D'accord, c'est-à-dire
c'est facultatif.
Ok. Et si c'est je ne comprends pas que j'ai un...
T'as un pet, c'est ton problème.
D'accord.
Parce que tu t'es pas assuré.
Ok.
Alors que 1%, c'est rien, c'est ridicule. 1%, c'est ridicule.
Si j'achète une PS5 à 500 euros, je te donne 1% 5 euros. D'accord.
Okay. Pour que je te rembourse à hauteur de 500 euros.
Ok.
En cas de problème.
Est-ce que tu as un pourcentage? Enfin, bon.
C'est quoi?
C'est le consultant en moi qui est en train de faire la virgule. Est-ce que tu as un ratio de. Tu as des problèmes sur combien de marchandises à l'année?
Zéro problème, je trouve le bois.
D'accord.
Jusque-là, on a eu zéro problème.
Tous les frais que tu as fait venir.
Exact. Mais on ne sait jamais.
Non, bien sûr.
On ne sait jamais.
Ok.
Donc c'est pour ça que je propose.
Moi, j'aurais tendance à me dire, bon, c'est sûr.
Oui, mais.
Et c'est pas toi, c'est toi-même qui assure?
Ouais.
Ok, mais quand ça va grossir, tu seras obligé de
prendre l'assurance. Obligé, pour l'instant, ça va, on arrive à gérer. En tout cas, sur B2C.
En B2C, pour moi.
Ouais, non, mais B2B, là, c'est des vraies assurances.
Oui.
Parce que tu t'amuses pas, à faire déplacer des cargos sans assurance, 1% de la valeur, ça veut rien dire. Donc, tu prends des vraies assurances et des vrais assureurs.
Ok. Ok. Bon, on est bien rentré dans les détails quand même. J'ai l'impression que ça s'est coupé, ça.
Non, j'avais arrêté.
J'avais arrêté, d'accord. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas. On a abordé Abidjan.
On a bien parlé quand même.
On a abordé le business, on a abordé la réinstallation.
Ouais.
On a abordé les études. Non, on a fait.
Je pense qu'on a fait un
bon petit tour. Et puis, donc je te laisse internet, quoi. Ce sera top, on aura moins d'une heure. Pardon, j'ai mes questions de fin.
Ok.
Est-ce que tu as, dans tout ce processus-là, tout ce que tu m'as dit, alors tu as fait une école de commerce, certes, mais plutôt la finance, Là, tu me parlais de persona, qui est plutôt du marketing. Est-ce que tu t'es fait coacher? Non, t'as bossé toute seule.
Ouais.
Ou c'était des cours que t'avais eu en école, peut-être?
Ouais, alors j'ai eu des cours en école.
Tu étais conseillère marketing.
Est-ce qu'il y a marketing? Non. Non, mais j'avais fait marketing plutôt dans les autres écoles de commerce.
D'accord.
Mais après, c'est marketing en surface.
Ok.
C'est pas, voilà. Mais YouTube is big.
Ouais.
Google,
donc,
YouTube.
Tu te formes professionnellement.
Tu Google, tu trouves en fait, tu vois. Et donc, je me suis formée moi-même à ce genre de choses.
Ouais.
Et il y a, comment dire, il y a plein de gens comme toi qui font des podcasts, qui sont où tu as du contenu intéressant. Faut juste savoir en fait écouter, c'est tout, écouter, parce que souvent les gens se trompent. Tu lances un business et tu n'écoutes pas ton client. Tu te dis non mais en fait moi c'est le business que je veux faire, je sais, c'est ça que lui-même il sait pas si de quoi il a besoin, tu vois, alors que non, moi j'écoute mon client. Chaque année on fait un, j'envoie des comment ça s'appelle, des templates de feedback pour que mes clients
ils répondent.
Bon, en général, je mets un petit moins 10%, ça motive.
Ah, c'est bon.
Tu vois. Et donc, les gens, ils répondent et je collecte tout ça et j'essaie de voir ce que je peux en faire.
Business. Exact. Tu le fais sur Google Form classique?
Non, je le fais sur MailChimp. Ouais, ils ont un template que j'ai adapté et que je leur envoie.
Et du coup, on n'a pas le temps de parler forcément, mais donc, toutes les personnes qui te contactent sur WhatsApp, tu as une base de données quoi, téléphone portable, tu prends des mails après, comment tu contactes
sur le site, en fait, tu peux t'inscrire. Tu as une plateforme où tu peux t'inscrire, ou pas déjà.
Donc, créer ton compte.
Exact. Donc, ce qui fait déjà que j'ai toutes tes données quand tu fais ça.
Ouais.
Mais effectivement, sur WhatsApp, quand tu nous contactes, parce que tu as deux options, c'est soit tu crées ton compte toi-même, ou tu nous le demandes, on le fait.
Ok, donc je te dis sur WhatsApp, je veux envoyer tel document.
Exact.
Et on te dit, bon bah, enfin tu vas me dire, bon bah, pour que je puisse faire renvoi pour vous, je mets le numéro de téléphone et si tu écris votre compte.
Exact.
Donc toutes les manières, tu as les gens.
Et plein de gens se posent la question, pourquoi on te demande une pièce d'identité pour créer un compte? Parce que tu es responsable de ce que tu envoies. Il y a des gens qui ont essayé de faire passer des graines de marijuana et de l'engrais pour faire pousser tout ça. Donc, t'imagines? Est-ce que tu imagines quand même? Le mec, il se dit...
Quand tu reçois les colis, toi, tu sais pas ce qui est dedans?
Bah, je demande les factures à chaque fois.
Okay.
Je demande les factures à chaque fois. En fait, quand tu crées tout ce que tu as acheté, tu mets ta facture d'achat.
Okay.
Et tu es responsable de ce que tu achètes. Donc, c'est pour ça que...
Le mec a mis une facture de graines de marijuana.
Oui, mais tu sais, ça passe. On va... Enfin, je sais pas. Écoute. Et donc, on reçoit la marchandise. On l'appelle et tout va bien. En fait, il... J'ai dit, mais heureusement, monsieur, en fait, on peut appeler la police, là. On peut appeler la police.
Il est en
parce
France.
Oui, mais il voulait faire envoyer son colis, de la France. Il l'a acheté aux Pays-Bas.
Okay,
livré
ouais,
en France.
Okay.
Et il voulait envoyer ça en Afrique, du coup. Je dirais pas le pays, parce que bon.
Oui, bien sûr.
Mais t'imagines?
C'est ouf.
C'est ouf, mais vraiment. Et donc, je te dis, t'es responsable de ce que t'achètes. Ce qui est logique.
Okay,
nous, on est une plateforme de service.
Oui, bien sûr, c'est pas à vous de supporter.
Voilà. Donc,
okay, donc chacun qui, quand je crée mon compte, même quand je vais le faire là,
pièce d'identité.
Tout seul, on te demande de plus d'une pièce d'identité.
Ouais, comme ça, du coup, la police peut soulever Malik.
Donc ça, toi, tu le fais pour archive. Mais oui, il n'y a pas besoin de KYC en particulier. Bon, enfin, s'il y a ce KYC juste de garder au cas où j'ai un incident, je sais aller le relier
à telle personne
et dire à la police.
C'est ça.
Okay.
Parce que quand tu crées ta commande, tu as un numéro client.
Ouais.
Que tu dois mettre sur ton colis déjà.
D'accord.
Pour que on sache que le colis t'appartient. Tu as une procédure à suivre et donc on sait que le colis appartient à Malik.
Et du coup, ça te renvoie à tout ce qui est RGPD. Donc tu as des purges chaque 5 ans.
Ouais,
c'est ça. Externalisé ou
externalisé. J'ai ma belle sœur qui m'a juste. Startup life.
De la base. Ok, et tu m'avais dit, et je ne sais pas si tu veux en parler, dans ton projet de développement, bon du coup là, tu cherches un associé tech, et j'ai vu aussi
toutes
que
toutes les bonnes volontés qui veulent participer au projet.
Oui, j'ai vu, tu étais sur Investisseurs et Partenaires, ils t'ont bossé avec eux, ils ont investi.
Alors, ils n'ont pas investi, mais ils ont fait ils nous ont prêté de l'argent.
D'accord.
Ils nous ont prêté de l'argent, si ça peut s'acide, enfin je sais pas. Bref, ils nous ont prêté.
Acide
prêt, j'aime bien. Ils nous ont prêté de l'argent, mais à taux zéro.
D'accord.
Ça, il faut le mentionner. Il y a de l'assistance technique aussi qui va avec, qui est pas mal.
C'était dans le cadre d'un. Parce que tu sais, il y a eu Pass Africa, tout
ouais,
ça.
Ouais, il s'appelle IPASS, le programme s'appelle IPASS.
Ok.
Mais je pense que c'est un programme qui est fait par Zira Capital au Mali.
Ok.
Qui est du coup le.
Par Zira ?
Zira.
Ah, ok, pardon, je connais Zira, moi. Pas Zira.
Non, non, qui est représentant de IEP.
Ok, au Mali. Au Mali, d'accord.
Exact. Donc, ils ont plusieurs programmes. Et donc, nous, on a postulé à celui-là et on a eu un grant.
D'accord, ouais. Ok. J'ai
un grant, mais ouais, après.
Ok. D'accord. Et donc, tu veux potentiellement à un moment donné lever ?
Beaucoup.
D'accord.
Faut, parce que, vu l'ambition qu'on a,
ouais,
t'es obligé de lever.
De
parce que, du coup, si tu veux, ne serait-ce que les entrepôts dans chaque pays ou même dans. Enfin, t'es obligé d'avoir.
Donc, ça, tu veux l'internaliser ?
Ouais.
Entreposage, tu veux internaliser
ouais.
En
ouais, ouais, d'accord. Ouais. J'aimerais bien internaliser. Donc, tu dois acheter les entrepôts. Moi, je partais sur le type d'entrepôt. Tu sais, démontable. Mm-hmm. Pas obligé de construire, tu plies, tu dis, voilà, mm-hmm. Les entrepôts, tu dois acheter des transpalettes, tu dois acheter des racks, tu dois acheter des palettes, mm-hmm. Tu dois acheter.
Oui, du moment où tu fais entrepôt, il faut avoir tout le métier de logistique
exact.
Qui va avec.
Donc, tu as tout ça, tu as écouté, il faut grandir le staff aussi, tu vois. Donc, on a besoin de beaucoup d'argent. Et digital, justement, c'est pour ça que je disais que j'avais besoin d'un
société
tech, parce qu'il faut que ça suive tout ça.
Oui. Et il faut peut-être, oui, du coup, ça devient une application pour que ce soit mobile friendly, que
exact.
Les gens puissent le faire de manière beaucoup plus rapide.
Exact. C'est le but. Donc, on a besoin de beaucoup d'argent. Si t'en as, Malik, t'hésites pas.
Moi, je suis chaud pour investir. Hein,
on va faire du love money, t'inquiète.
Ah, oui,
ouais,
donc,
on va faire du love money.
Quand tu ouvres le capital sur ce sujet-là. Et
je le prends au mot, hein. J'espère que vous retenez tous parce que sinon, je vais l'afficher sur les réseaux.
Franchement, tu me prends au mot en effet. Et puis même, de toute façon, on a déjà parlé hein, de choses si besoin et que si je peux aider. Avec grand plaisir.
Écoute.
On a déjà commencé ce matin.
J'avoue.
On a fait la tournée. Et puis, avant dernière question, donc on a parlé de. Est-ce que tu as des mentors sur ces. Sur
mon papa.
Ton père.
Ouais. Alors, j'ai deux mentors. J'ai, on va dire trois, parce qu'il y a mon mari aussi. J'ai mon papa. Mmh. En fait, dès que j'ai un problème que je ne sais pas gérer, je l'appelle lui. Mmh. Parce que. C'est une bibliothèque.
Il a déjà fait.
Il a été entrepreneur toute sa vie. Donc, en fait, nous, souvent, quand on vient d'Europe ou qu'on a fait des études poussées, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa n'a pas fait le bac.
D'accord.
Mais quand on a fait des études poussées, on a tendance à overthink les choses et compliquer des choses qui sont en
simple.
Fait simples. Donc, quand c'est comme ça, je l'appelle. Okay. Et il me dit, en fait, non, tu fais A, B, C, c'est tout.
J'avais pas pensé comme
exact.
Ça.
Exact. Mmh. Donc, lui, c'est tout le côté technique. Tout le côté technique surtout. Ma maman, c'est tout le côté réseau.
Okay.
Elle connaît beaucoup de gens.
Okay.
Beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens. Tout le Mali la connaît, je sais pas pourquoi.
Oui,
non, c'est dans sa nature. Elle,
d'accord.
Elle a toujours été comme ça.
Okay.
Donc, tous les problèmes que tu peux avoir, même en Côte d'Ivoire, tu l'appelles, elle connaît quelqu'un.
Il y a un livre super intéressant qui parle un peu de ce type de personnalité-là, qui s'appelle Tipping Point.
Okay.
Le point de bascule de Malcolm Gladwell. En fait, il explique comment des épidémies sociales se développent. Quand j'ai épidémie sociale, c'est dans le bon sens.
Hello, c'est Akuma. Malheureusement, ma carte mémoire s'est remplie. À ce moment de l'épisode, il ne restait plus que 5 minutes. Hein. Zainab a juste donné des conseils de lecture qui sont hyper importants et que je la pousserai à me redonner dans un prochain podcast, je l'espère, ou même dans une session publique. Mais voilà, je tiens à m'excuser pour cet épisode, la petite frustration que vous aurez de pas avoir la fin de l'épisode, mais je vous rassure, il ne restait que quelques minutes. Merci beaucoup pour avoir écouté l'épisode jusque là, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Zena pour des questions de business, si vous voulez faire venir des affaires, ça lui fera énormément plaisir. Et aussi à me contacter pour du mentoring, pour des questions, l'entrepreneuriat, le podcast, ce que vous voulez. Je vais bientôt lancer une masterclass sur comment lancer son propre podcast. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes, donc c'est quelque chose que j'ai envie de satisfaire. Allez, à très vite. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Salut.